Bien-aimés frères et sœurs de Bourguébu, je vous adresse à toutes et à tous mes chaleureuses salutations dans le nom du Seigneur Jésus, heureux de vous retrouver à distance par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui la fin du chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, nous allons faire la lecture à partir du verset 16. Dieu dit, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses productions. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, « Je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. » Vous vous souvenez que dans notre avant-dernier culte à Bourguébu, nous avions médité sur les 10 premiers versets de ce chapitre 34 d'Ézéchiel et nous avons remarqué que Dieu y adresse un message très sévère aux mauvais pasteurs d'Israël. Dans le dernier culte à Bourguébu, nous avons médité sur les versets 11 à 16 de ce même chapitre 34 d'Ézéchiel et nous y avons remarqué la promesse de Dieu d'un secours personnel à ses brebis en souffrance, message encourageant dans lequel l'Éternel montre tous les soins qu'il allait prodiguer à ses brebis. Et dans le texte qui nous préoccupe aujourd'hui, donc la fin de ce chapitre 34 d'Ézéchiel, Dieu annonce un autre jugement surprenant. Il va juger entre brebis et brebis. Et il adresse là encore, je le répète, un message sévère. Les quatre premiers versets de notre texte annoncent ce jugement de la part de Dieu. Je relis avec vous la seconde partie du verset 16 jusqu'au verset 19. Dieu dit « Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. » Nous allons remarquer dans notre méditation d'aujourd'hui que le mal et la souffrance ne sont pas venus uniquement des mauvais pasteurs, mais ils sont venus également des mauvaises brebis, celles que la parole de Dieu désigne ici comme les brebis grasses et vigoureuses, les béliers et les boucs. Et ces brebis-là, ces béliers, ces boucs, ont méprisé le bon pâturage de l'Éternel et ils l'ont foulé aux pieds. Ils ont méprisé l'eau limpide où ils venaient boire, la troublant avec leurs pieds. Et les brebis faibles devaient se contenter de cela? Eh bien, Dieu dit non. Et il promet de prendre soin des siens. Et cela ne vous aura pas échappé, dans la lecture que nous venons de faire, le jugement de Dieu est tellement arrêté, résolu de sa part, qu'il répète trois fois sa ferme résolution. Au verset 17, Dieu dit « Je jugerai entre brebis et brebis ». Au verset 20, « Je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre ». Et à la fin du verset 22, « Je jugerai entre brebis et brebis ». Et on peut noter également la parole terrible du Seigneur à la fin du verset 16, « Je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses ». Mais, et béni soit Dieu pour cela, le message de l'Éternel contient aussi une note de compassion, de miséricorde et d'amour à l'égard de ses brebis. J'aimerais tout d'abord remarquer avec vous ce que sont ces brebis que Dieu condamne. Celles qui sont désignées au verset 16 comme les brebis grasses et vigoureuses, également au verset 20, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Et puis, à la fin du verset 17, il est question des autres brebis, béliers et boucs. Alors, quelles sont ces brebis grasses, vigoureuses? Quelles sont ces béliers et ces boucs? Dans le contexte d'Israël, il n'y avait pas seulement au sein d'Israël de mauvais pasteurs. Et on a vu que derrière ce mot-là, Il faut y inclure tous les grands responsables, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Donc il n'y avait pas seulement de mauvais pasteurs, mais il y avait aussi des membres du peuple, riches, puissants, qui opprimaient les autres. Et ce sont ces gens-là qui sont désignés par l'Éternel comme les brebis grasses, fortes et vigoureuses, les béliers et les boucs. Dieu s'engageait à agir envers ces brebis-là avec justice. Et l'histoire d'Israël nous montre que c'est ce que Dieu a fait. Mais c'est ce qu'il fera aussi dans un autre contexte, dans les temps à venir. Et je peux lire pour vous ou avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 31. Le Seigneur Jésus parle ici des temps à venir, le moment où il va revenir pour établir son règne de 1000 ans. Et nous savons que ce temps-là va être inauguré par un temps de jugement. Et Jésus dit dans Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Et c'est ce qui nous montre, et c'est là une leçon très importante, que Dieu ne change pas. Ce qu'il a été dans le contexte d'Israël au temps d'Ézéchiel, il le sera à la fin des temps. Dieu ne change pas dans sa nature divine et Dieu ne change pas dans l'exercice de ses jugements. Et l'Église fidèle doit toujours être consciente de cela. Et elle ne doit jamais s'adapter au monde, aux glissements doctrinaux, aux effondrements de la morale, à l'apostasie galopante qui réécrit aujourd'hui un autre évangile, qui présente un autre Jésus, un autre esprit. Dieu dit par la bouche du prophète Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » J'en viens au comportement de ces brebis grasses et vigoureuses. Mais notez tout d'abord que le mal et la souffrance endurés par les brebis de l'Éternel ne sont pas venus uniquement des mauvais pasteurs, comme nous le disions tout à l'heure, mais aussi des mauvaises brebis. Il en est de même aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Je sais bien que nous sommes dans un temps très particulier avec la pandémie, que nous sommes tenus de rester confinés dans nos maisons, mais nous parlons pour ce qui s'est passé dans les semaines, les mois derniers, ce qui sera dans les temps à venir parce que nous sortirons de cette pandémie, bien évidemment, et l'Église restera debout jusqu'au retour de Jésus. Donc il est bon de voir ce qu'il en est dans l'Église de Jésus-Christ. Ce qui s'est passé avec Israël et ses fameuses brebis vigoureuses se passe dans le peuple de Dieu. Et je dis que leur vient, ou dans les églises, le phénomène va s'accentuer, les croyants fidèles ne vont pas souffrir uniquement à cause des ministères faisant naufrage, mais aussi à cause du comportement de certains croyants, de certains chrétiens, permettez-moi de mettre les mots entre guillemets, de certains croyants eux-mêmes à l'égard d'autres chrétiens qu'on peut qualifier de brebis faibles ou maigres, pour reprendre le texte d'Ézéchiel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Citons des exemples connus. Des chrétiens riches mépriseront ceux qui sont pauvres. Et à cet égard, nous avons besoin de nous souvenir de l'exhortation de Jacques au chapitre 2 de son épître, les versets 5 et 6. Jacques dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Et n'oublions pas que Jacques s'adresse à des chrétiens et Jacques ajoute « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce eux qui outragent le beau nom que vous portez ?» Donc le mal existait déjà dans la première église et Jacques souligne ses souffrances endurées par certains chrétiens. Mais il y a d'autres cas de figure. Des chrétiens instruits toisent et toiseront de toute leur hauteur des petits, d'humbles croyants, sans instruction, sans diplôme. Et ce sera une souffrance, et c'est une souffrance pour ces chrétiens-là. Des chrétiens talentueux dans certains domaines poussent ou pousseront de côté ceux et celles qui sont dépourvus de certaines capacités naturelles. L'exhortation de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 4, verset 7, conserve toute son actualité. « Qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Il existe une autre réalité tout aussi terrible et j'oserais dire sinon plus grave. Pour revenir à notre chapitre d'Ézéchiel, après avoir goûté le bon pâturage, les brebis grasses foulaient le reste avec leurs pieds. Verset 18, « Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage ?» Après avoir bu une eau limpide, ces mêmes brebis grasses troublaient le reste avec leurs pieds. Et Dieu dit dans la seconde partie du verset 18, « Est-ce trop peu pour vous de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds ?» Et l'image est tirée du moment où le troupeau était conduit au pâturage ou à l'abreuvoir, et non seulement les brebis les plus fortes s'élançaient les premières en écartant les faibles, mais elles gâtaient l'aliment et le breuvage qui restaient pour les faibles. Alors, que se cache-t-il derrière cette image inspirée à Ézéchiel par le Seigneur ? Tout d'abord, en ce qui concerne Israël. Sur le plan matériel, l'effort en Israël ne se contentait pas de jouir des biens de Canaan, mais ils en privaient durement les faibles, qui y avaient pourtant droit aussi bien qu'eux. Sur le plan spirituel maintenant, en ce qui concerne le peuple d'Israël, nous avons cette parole dans le livre de Malachie au chapitre 2, verset 8, où Dieu dit, en parlant de certains responsables comme les sacrificateurs, donc les brebis fortes, « Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Il y avait là, dans ce contexte-là, le bon pâturage. Les responsables pouvaient en bénéficier, mais non contents de cela, ils ont même foulé au pied ce bon pâturage et ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et au verset 13, vous savez que dans ce chapitre, il fustige d'une façon terrible les scribes et les pharisiens. Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Maintenant, que signifie cette image du prophète Ézéchiel en ce qui concerne l'Église, les brebis vigoureuses qui, après avoir goûté au bon pâturage, le foulent aux pieds et, après avoir bu une eau limpide, troublent le reste avec leurs pieds. Le bon pâturage me semble être tout simplement la parole de Dieu. Elle est là, pleine de la nourriture dont notre âme a besoin. Jésus disait que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortirait de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est le pain des grands, le pain des forts. Et Dieu a tout mis dans sa parole pour nourrir notre être spirituel, nourrir notre foi. Cette parole est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Il y a tout ce qui est nécessaire au développement de notre vie dans cette parole tout entière inspirée du Saint-Esprit. Eh bien, si nous considérons le message du prophète Ézéchiel, on peut remarquer aujourd'hui que cette bonne parole est foulée aux pieds. À plus d'un endroit, il y a disparition du vrai message divin, le vrai message de la vie, le vrai message de l'esprit, de la foi, le message centré sur Christ, centré sur la rédemption, l'œuvre de la croix, la puissance du sang. On assiste aujourd'hui dans les églises, dans certaines églises, à des discours philosophiques, psychologiques, à des messages qui sont dépourvus de toute sève spirituelle. On a vraiment, vraiment le sentiment de vivre cette image d'Ézéchiel où les brebis grasses, les responsables ont foulé aux pieds le bon pâturage. Pour ce qui est de l'eau limpide, l'image n'est pas compliquée à saisir. Pourquoi ne pas y voir la vie de l'esprit ? Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Eh bien, cette eau limpide, elle aussi, a été foulée aux pieds. Elle a été troublée par le pied des brebis fortes. La vie de l'esprit est en extinction. Je suis catastrophé de voir qu'il y ait si peu d'enseignements, de prédications sur la vie de l'esprit, où les nouveaux baptisés ne sont pas conduits dans la voie du baptême de l'esprit, où on n'enseigne plus la nécessité de rechercher, d'aspirer aux dons spirituels, de les recevoir, de les exercer. Il n'y a plus aucune notion de ce qu'est la véritable onction, et derrière ce mot « onction » aujourd'hui, on ne met plus les mêmes choses. On remplace l'onction par une ambiance artificielle, musicale. On remplace l'onction par une ambiance mondaine, psychique, pour ne pas dire sensuelle parfois. Et c'est une triste situation pour les brebis du Seigneur. Dieu dit « Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. » Mais ce n'est pas tout. Parce que Dieu s'engage à juger la violence des brebis fortes, une violence manifestée contre les brebis faibles. Parce que vous avez heurté avec le côté, verset 21, et avec l'épaule, et frappez de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis. » Les brebis avaient donc été heurtées avec le côté et avec l'épaule des autres. Elles avaient été frappées par les cornes, bon, les cornes des boucs, puisque les brebis n'ont pas de cornes. Et ces brebis ont été chassées. Eh bien, aujourd'hui, ça arrive dans plusieurs endroits, on pousse les autres, les petits, ceux que l'on méprise, on les blesse, on les chasse. Et il y a encore un mal que le Seigneur souligne au verset 22. « Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. » Les brebis au pillage. Je sais que les chrétiens qui ont été malmenés, dépouillés de certaines richesses spirituelles, comprennent très bien l'image employée ici par l'Éternel. J'en viens à quelque chose de délicieux. Nous avons, dans cette fin de chapitre 34, les promesses du secours de Dieu qui sont répétées. Dieu va porter secours et il va juger. Verset 22, « Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. » Alors il est vrai que nous retrouvons dans notre texte d'aujourd'hui des pensées déjà évoquées dans les versets 11 à 16 et qui ont été l'objet de notre dernier culte à Bourguébu. Mais si Dieu réitère ici ces mêmes promesses, c'est parce que ces brebis en souffrance en ont bien besoin et il sait qu'elles ont besoin d'un message de réconfort. Et si Dieu les répète, ces promesses-là, alors permettez-moi de les répéter à nouveau pour vous et pour moi aujourd'hui. Dieu parle à nouveau de quoi ? Il parle de rassasiement. Ces brebis vont pouvoir paître comme il convient. Dans le verset 23, Dieu va le répéter deux fois. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Dieu parle à nouveau de sécurité. Verset 25. Elles habiteront en sécurité dans le désert. Et au verset 27, le Seigneur dit, elles sauront que je suis l'Éternel, elles seront en sécurité dans leur pays. Dieu parle à nouveau de repos, verset 25, elles dormiront au milieu des forêts. Dieu parle de la délivrance d'un joug, dans la deuxième partie du verset 27, elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Et Dieu s'engage à mettre un terme à la faim de ses brebis et il s'engage à les nourrir. Au verset 29, il est dit « Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays ». Et nous avons là tous les tendres soins que Dieu va apporter à ses brebis faibles, à ses brebis maigres qui ont souffert pendant trop de temps. Et j'en viens à quelque chose de plus glorieux encore, c'est que non seulement l'Éternel s'engage à donner toutes ces grâces-là, mais il va accorder à son peuple une grâce suprême dans laquelle toutes les autres grâces sont renfermées. Dieu va établir un seul pasteur, le nouveau David. Je dis le nouveau David parce que à l'époque d'Ézéchiel, David était mort depuis longtemps. Donc Dieu parle d'un d'un seul pasteur, le nouveau David. Relisez avec moi le verset 23. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Alors vous allez me dire, mais qui est ce nouveau David, ce serviteur David, puisque le roi David est mort depuis longtemps? Eh bien, ce nouveau David, c'est tout simplement Christ. Rappelez-vous, il est désigné dans la première ligne de l'évangile de Matthieu comme étant le fils de David. Et l'Écriture parle de Jésus comme du pasteur par excellence. Il est le bon pasteur. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger ». Jésus est aussi le grand pasteur des brebis, parce que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 20, Hébreux chapitre 13, verset 20, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Donc Jésus est le bon pasteur, il est le grand pasteur, et l'apôtre Pierre, s'adressant aux anciens, va même rappeler que Jésus est le souverain pasteur. À ces anciens, Pierre écrit, au chapitre 5, verset 4 de sa première lettre, « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Dans le texte d'Ézéchiel, il est question d'un pasteur unique. Verset 23, « J'établirai sur elle un seul pasteur, mon serviteur David, il sera leur pasteur. » Alors si on remet la parole d'Ézéchiel dans le contexte d'Israël, cela signifie que la royauté ne sera plus partagée comme elle le fut pendant le schisme qui avait, vous le savez, séparé les deux royaumes, Israël d'un côté, Juda de l'autre. L'unité primitive sera rétablie. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel annonce au chapitre 37, au verset 22. Dieu dit « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Et au verset 24, « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. » En ce qui concerne l'Église, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, alors qu'il parle de lui comme du bon berger, dit quelque chose de très très intéressant. Je vais vous lire ce verset-là, c'est le verset 16 du chapitre 10. Jésus dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc qui ne sont pas de la nation d'Israël. » Et Jésus ajoute « Celles-là aussi, il faut que je les amène. » Et ces autres brebis, c'est tout simplement les nations païennes, c'est chacun de nous. « Celles-là aussi, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et écoutez bien ce que Jésus ajoute, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » L'Église, quel que soit le nombre de ses participants, quels que soient les continents où elle se trouve, quelles que soient les races, quelles que soient les conditions sociales, quel que soit le niveau d'instruction, le niveau de fortune et d'autres considérations, les vraies brebis du Seigneur sont une il y a un seul troupeau rassemblé sous un seul berger dans lequel sont contenues toutes les grâces dont elles ont besoin, notre Seigneur Jésus. Pour conclure, je vous dirai seulement ceci, mes frères et sœurs, consolez-vous, réjouissez-vous par ces paroles. Dieu a vu l'oppression des brebis faibles. Il a vu leur souffrance. Il a mesuré l'intensité de leurs blessures. Il a été le témoin du mépris dont elles ont été l'objet. Il a vu leur faim, leur soif. Il a vu leur mise à l'écart. Il a été témoin de leur bannissement, de leur dépouillement. Et il vient les secourir. Christ lui-même va prendre soin de ses brebis. N'oubliez jamais, n'oublions jamais que tout est en Jésus. À nous d'entendre son appel, à nous de bien connaître et reconnaître sa voix et de le suivre. Amen.